On va effectuer un petit décalage et s'intéresser à d'autres horizons et d'autres univers, s'il vous plaît. On m'a dit que vous n'avez pas de pause, donc je suis obligé d'enchaîner. Donc on va effectuer un petit décalage avec deux autres interventions. La première de Maria Inés Fernandez Alvarez, qui est anthropologue, chercheuse au CONICET, donc à Buenos Aires, en Argentine, et qui travaille sur la jonction entre l'anthropologie politique et l'anthropologie du travail, notamment à travers les processus d'organisation syndicale, les pratiques politiques des travailleurs de l'économie populaire en Argentine. Et elle a publié en 2017 un livre qui s'appelle « La Politica Afectada ». Sa présentation aujourd'hui s'appelle « Politiser les besoins matériels, modalités d'engagement collectif en Argentine ». Et on fera un petit bond géographique avec Julien Talpin, qui est sociologue chargé de recherche au CNRS, co-directeur du CERAPS à Lille, dont les recherches récentes portent sur les expériences de discrimination, notamment à travers une ANR qui s'appelle EDIPAR. Mais aujourd'hui, il interviendra plutôt sur ses premières recherches sur le comité organizing aux États-Unis. À ce titre, il a publié en 2016 à Raison d'agir un livre qui s'appelle « Comité organizing, de l'émeute à l'alliance des classes populaires aux États-Unis ». Et sa présentation pour aujourd'hui sera intitulée « Le community organizing, une inspiration possible pour la repolitisation des centres sociaux ?» Point d'interrogation. Donc je vous laisse la parole pour 30 minutes chacun et on ouvrira ensuite la deuxième phase de débat où vous pourrez... Il y a déjà une question. Il y a un PowerPoint qui accompagne l'intervention de... Numéro 2. Ben on va demander à... Ah, ben elle est là. Oui. On se décale un petit peu. C'est-à-dire qu'on se sent, on se sentait très seul vu le départ de tout le monde, donc on s'est un peu regroupé.
Bon, merci.
Allez, à toi de jouer.
Bonjour. Et tout d'abord, je vais remercier énormément les organisateurs. Ça va? Et les organisateurs du colloque, et en particulier Catherine Nevet, de m'avoir fait venir du vent du vous du monde. Et je m'excuse aussi pour mon petit accent argentin et j'espère que ça se passe bien. Et j'ai fait une présentation qui a fait prendre en compte la synthèse que j'ai reçue qui avait été faite pour l'équipe Énarchir, la recherche sur la question des fonds d'engagement et politisation. Et à partir d'une série de réflexions qui portent sur mon travail de recherche, le travail de recherche que je développe depuis 2002 en Argentine autour d'un ensemble d'organisations de base. Et dans un premier moment, des décisions récupérées, je ne développe pas ça, mais après on peut poser la question qu'est-ce qui sont les décisions récupérées par les travailleurs. Des coopératives de travail, et surtout des ramasseurs de déchets. Et dans la dernière partie, dernier moment, et c'est sur ce que je veux parler aujourd'hui, c'est sur les coopératives de vendeurs ambulants. Donc, d'une manière très très synthétique, on peut dire que dans son ensemble, il s'agit des organisations de base qui sont formées en Argentine dans les dernières décennies. À partir de la fin des années 90 et surtout à partir des années 2000, par un secteur sans cesse croissant de la population déplacée du marché du travail formel, disons, qui se trouve sans emploi ou bien qui développe des activités dans le marché informel du travail, telles que la vente ambulante, par exemple, et les coopératives les récupérations de déchets qui sont les plus répandues. Donc, il s'agit d'une population dont les conditions de vie sont devenues de plus en plus précaires à cause de la mise en place des politiques d'ajustement introduite dans notre pays à partir des années 70, mais surtout approfondie énormément à partir des années 90. Donc, en bref, une population pour laquelle les solutions des enjeux économiques relatives aux soins matériels, c'est nourrir, c'est loger, la santé aussi, c'est une question centrale. Donc, en effet, et au-delà de toutes les différences entre ces processus d'organisation dont j'ai travaillé dans mon parcours, dans ma trajectoire de recherche, on peut dire qu'il s'agit dans son ensemble, des processus d'organisation qui se sont développés pour trouver des solutions ensemble aux questions de besoins matériels, pour défendre la source de travail dans les années 2000, ou pour demander d'intervention de l'État pour avoir un emploi en tant que chômeur ou en tant que travailleur de l'économie populaire dans les années plus récentes. Mais en même temps, qui ont développé, à partir de ces processus d'organisation, des initiatives collectives pour améliorer leurs conditions de vie des membres de ces organisations, mais aussi des voisins ou de la ville, dans un sens plus large, relatives à l'accès à la santé, à la sécurité sociale, au logement, etc. Donc, il s'agit des processus d'organisation qui se sont construits sur la base d'une politisation croissante des différentes dimensions de la reproduction de la vie quotidienne, en politisant les besoins matériels. Plus encore, ces expériences soulignent comment des pratiques et des espaces qui font partie du quotidien et sont liés a priori à la résolution de ces besoins matériels, se nourrir, se loger, etc., telles que la mise en place d'une cantine communautaire, la distribution des jouets à des dates comme les jours de l'enfant, l'organisation des journées solidaires pour obtenir des ressources économiques face à la nécessité d'une intervention médicale, la création d'un fonds commun, la construction d'une maison ou tout simplement la distribution de nourriture sont des pratiques et des espaces où l'on fait de la politique. Dans quel sens ? Donc, tout d'abord, en tant qu'il s'agit des pratiques et des espaces qui se construisent collectivement, qui sont soutenus par un travail collectif, c'est-à-dire ce qui les rend possibles, c'est l'engagement collectif. Dans un deuxième point, dans la mesure où il se met en place un processus collectif de lutte pour des ressources publiques, ainsi qu'une interpellation sur la distribution et l'utilisation de ces ressources. Après, dans un troisième point, car il s'agit des pratiques et des espaces qui vont de pair avec un travail pédagogique qui vise à reconnaître que les ressources obtenues pour répondre à ces besoins matériels sont des droits conquis à partir de la mobilisation collective plutôt que des dons octroyés par l'État ou pour des agences non gouvernementales. Et après, parce que l'importance de ces pratiques ne se trouve pas uniquement, se trouve, mais pas uniquement, dans ce qui s'efface, mais la cantine, la nourriture, la maison, mais aussi et surtout dans comment cela s'efface. Donc, pour développer cette idée et cet argument, j'ai vraiment attardé particulièrement sur les travaux que je réalise depuis 2015. Avec une association devenue formellement plus tard une coopérative de vendeurs ambulants qui développe leur activité dans les trains Saint-Martin, c'est un train, une ligne métropolitaine de passagers. Donc, une remarque assez brève sur la notion de coopérative. En fait, ce n'est pas une coopérative dans le sens traditionnel, donc c'est pas non plus c'est plutôt une figure juridique, disons, qui soutient les processus d'organisation collective avec un but en commun, un objectif en commun, mais pas des personnes qui partagent les revenus dans ces cas-là. Donc, cette organisation fait partie de la Confédération des travailleurs de l'économie populaire, CETEP. C'est une organisation qui a été fondée en 2011 en Argentine afin de représenter en tant que syndicat les travailleurs de l'économie populaire, ce qui pour l'organisation inclut une variété assez large d'activités, de ramasseurs de déchets, des couturières sous-traitées, des usines récupérées, des vendeurs ambulants, dont je parle aujourd'hui. Donc, il s'agit d'une organisation qui, dans les dernières années, manifeste une forte croissance numérique et une pertinence politique très significative dans notre pays. Pour la CETEP, les travailleurs de l'économie populaire sont ceux qui se sont vus et obligés à s'inventer un travail pour survivre, comme conséquence d'un processus croissant de la dépossession qui les a laissés en dehors de l'emploi salarié. Par conséquent, pour l'organisation, l'économie populaire constitue un secteur de la classe ouvrière, je cite, sans droit du travail et sans patron, qui, loin d'être une autre économie, je suis en train de citer la définition pour la CETEP, devient une expression d'une économie globale du marché avec laquelle elle a des points de contact multiples. Donc, ainsi, économie populaire est une catégorie politique qui cherche à rassembler, depuis son caractère de classe, une population très hétérogène en affirmant des caractéristiques principales de cette population. La première, la reconnaissance de sa condition de travailleur. La deuxième, l'absence des droits qui en Argentine définissent depuis la moitié des années du siècle passé cette condition, telle que l'accès au travail, à la santé, à la retraite, aux allocations familiales, etc. Par exemple, en conséquence, l'objectif transversal de la CETEP est de faire en sorte que les droits des travailleurs de l'économie populaire soient les mêmes que ceux qui ont les travailleurs formels, qui ont un emploi dans les marchés formels. Donc on peut dire que la CETEP a créé une demande de droits qui n'existait pas en tant que telle auparavant de l'organisation, de la formation. Dans ce cadre, les processus de lutte pour la création d'un salaire social complémentaire, mis en place en 2016, a occupé une place centrale. Il s'agit d'un revenu complémentaire pour cette population versé sur la forme de transfert monétaire direct qui n'a aucune contrepartie et qui s'appuie à celui obtenu par les activités qu'ils font. La formation de la coopérative de travail de Bandeira Unie du Train Saint-Martin, dont je parle, doit être comprise dans ce contexte plus large d'organisation de la syndicale qui porte la CETEP. Cependant, si la coopérative a été constituée formellement en 2014, les Bandeira et Bandes du Train ont maintenu à travers des générations une série de codes de vie, comme ils l'appellent, qui organisent aussi bien l'espace du travail que les rimes, les organisations et les relations dans les trains, où les relations de parenté prennent une place centrale. Il s'agit d'un ensemble de règles créées collectivement pour faire face, par exemple, aux situations de violences systématiques de la part des forces de la sécurité, par les via des pratiques d'attention des soins collectifs, dont la formation de la coopérative et l'affiliation à la CETEP font partie. Donc cette lecture s'inspire de penser cette pratique en tant que pratique d'attention, s'inspire des réflexions développées par les économies féministes concernant la notion de soins et souligne la centralité de ces pratiques pour garantir la reproduction de la vie dans un sens large. C'est-à-dire, pas uniquement en ce qui concerne les besoins matériels strictement, mais aussi affectifs et émotionnels. Donc ces pratiques ne sont généralement pas considérées comme des questions économiques et impliquent des systèmes collectifs pour soutenir, la vie, y compris les attentes et les projections dans le futur. Et font une partie substantive des stratégies développées par ces populations pour se gagner la vie. Donc, avoir un drapeau, porter un t-shirt avec les logos de l'organisation de la CETEP, avoir une carte de la coopérative, sont des pratiques de soins qui les protègent face à des situations potentielles de violence. Et en même temps, ces pratiques de soins sont à la base de la production de fonds forme de bien-être collectif, tels que l'octroi des boîtes de Noël, des cadeaux pour les jours de l'enfant, etc., qui touchent aussi les quartiers qu'ils habitent et les voisins, les familles. Donc, pour développer cette idée, je présente des situations ethnographiques, des scènes ethnographiques très rapidement, qui font partie de mon travail et qui, à mon avis, mettent en lumière les processus de politisation des besoins matériels dont je parle. Donc, la première date de septembre 2018. Et elle se déroule dans les cadre d'une assemblée de la coopérative, c'est plutôt en discussion plutôt qu'un débat, et autour de la participation dans une mobilisation pour demander l'augmentation du salaire complémentaire dont je parlais tout à l'heure. Sylvia, qui est la dirigeante de la coopérative, ouvre l'assemblée et commence par retracer l'histoire de la coopérative, s'adressant à celles et ceux qui en faisaient pas partie de l'origine. Elle rappelle que les mots unis qu'ils sont choisis pour le nom de la coopérative signale l'importance de s'organiser pour demander la reconnaissance de son activité en tant qu'un travail dans un contexte où l'harcèlement et la répression directe sur la vente ambulante sont devenus de plus en plus fréquents. Elle ajoute que à différence de ceux et celles qui font partie des anciennes ou des biais, elles se sont battues avec la police pour maintenir l'activité, sa forme de vie. Comme c'est son cas, les nouveaux ou les jeunes n'ont pas vécu dans leur propre chair cette expérience. Et Pimienta, un des plus anciennes, prend à son tour la parole pour faire référence à la période de la privatisation du train pendant les années 90. Très émue, elle se souvient des difficultés pour ne pas disparaître du train à cause de l'instauration du nouveau système de sécurité. Sylvia reprend son récit. Si ce moment a été décisif pour continuer à être bandeur ou bandeuse du train, ils ont été aussi compris que ce n'était pas suffisant lorsqu'ils ont vu mourir les plus âgés d'entre elles au travail. Il était nécessaire de s'organiser et se battre pour améliorer leurs conditions de vie. Dans l'intervention de Sylvia, améliorer les conditions de vie voulait dire deux choses essentiellement. D'une part, il fallait se battre pour conquérir des droits dont il avait été privé jusqu'au présent, tels que les congés maladie, une assurance médicale, l'accès à la retraite, etc. C'était les objectifs de la CETEP. Donc les salaires sociaux complémentaires auxquels certains vendeurs avaient eu accès, faisait partie de ces droits obtenus par la mobilisation. Pour que cela touche tout le monde, il était nécessaire de renforcer l'engagement collectif. D'autre part, il était nécessaire d'améliorer leurs maisons et leurs quartiers, comme certains parmi elles l'avaient fait ces dernières années, grâce au travail collectif mené avec ses collègues de la coopérative. Sa maison, où ils étaient présents, l'assemblée avait lieu, était un exemple clair. Sylvia s'est arrêtée pour illustrer comment, à partir de ce travail collectif, il avait fait des gros progrès dans ses conditions de vie, en fournissant une chambre pour chacun de ses filles et ses fils. Elle évoque également l'exemple des casillas, donc des maisons construites à partir de matériaux trouvés dans la rue, transformées en des maisons dignes. Des exemples qu'ils font visibles sur les pages de Facebook de la coopérative tout le temps. Ça, c'est des exemples des maisons qui sont reconstruites à partir de qui avaient été brûlées pour eux-mêmes de ce côté et pour leurs voisins dans l'autre. La deuxième situation a eu lieu en septembre 2019, l'année passée, l'année précédente. Et dans un temps de formation politico-syndicale pour la coopérative, dont j'ai participé en tant que collaboratrice dans l'organisation du contenu et la mise en place. La formation s'est adressée à la commission directive de la coopérative, qui à peu près est composée par 15 membres, et qui sont principalement les vendeurs plus anciens, les plus vieilles. La question de l'incorporation donc des plus jeunes, des nouveaux, ainsi que la transmission des codes de vie était une question assez fréquente. Vers la fin de ces réunions, la commission discutait de diverses questions relatives à la dynamique du travail, à l'organisation de mobilisation, etc. En particulier, elle contrôlait les cahiers dans lesquels sont inscrits les détails du registre comptable du fonds commun de la coopérative. Ce fonds commun est composé par des contributions mensuelles de 100 pesos environ, qui fait chaque membre et n'est pas destiné au fonctionnement quotidien de la coopérative, mais est gardé pour financer des interventions médicales ou les dépenses funéraires d'un collègue ou d'un membre de la famille. Ça, c'est une question très, très délicate, parce qu'ils n'ont pas de moyens pour enterrer leur mort. Lors de ces réunions, tandis qu'il vérifie les montants du fonds commun, un collègue lève la main pour demander au présent de lui accorder un prêt afin de remplacer la télé récemment détruite dans l'incendie du maison, qui est une question assez fréquente aussi, comme on avait vu. Et il ajoute qu'il s'agit d'une demande à caractère extraordinaire et il souligne qu'il va rendre les montants tout de suite en faisant référence à l'importance d'avoir ces prêts pour éviter de s'endetter. Une fois sa demande approuvée, un autre vendeur prend la parole pour dire qu'avec un autre collègue, il souhaite acheter une panchera. Donc j'ai mis une photo pour avoir une idée de ce qu'est une panchera. C'est un appareil pour chauffer des hot dogs au chaud qui vendent au train. Pour augmenter leur revenu qui avait été très réduit dans les dernières années à cause des périodes qu'on a eues assez intenses chez nous. Pour cela, et il propose de revenir l'utilisation du fonds commun, de redéfinir l'utilisation du fonds commun et de dessiner une partie de ce fonds commun et pour faire des petits prêts personnels avec un taux d'intérêt très bas, bien en dessous de celui accordé dans les circuits financiers auxquels ils ont accès, qui ont des taux usuriers, et qui permet aussi de gérer les durées du prêt accordé d'une autre façon plus flexible, mais également pour rendre de l'argent à la coopérative qui peut aussi rendre de l'argent à travers les intérêts qui se prêtent peut avoir, même s'ils sont plus petits. Et donc une série d'études développées ces dernières années ont affirmé attiré l'attention sur les modalités d'endettement des classes populaires, pas seulement en Argentine, mais ici et très, très fort dans notre pays. Cette littérature a permis de montrer ou de remettre en question une idée assez large selon laquelle cette population était exclue du système financier. Elle a montré au contraire que ces dynamiques d'endettement renforcent des situations d'inégalité à travers des mécanismes d'exploitation financière qui touchent particulièrement les classes populaires. Ils ont aussi signalé les conséquences négatives de la divergence entre les temps de financement, généralement des remboursements mensuels, et les temps de revenus plus erratiques de ces populations. Donc la situation décrit met en évidence également ces processus d'organisation collective. Comment ces processus d'organisation collective peuvent permettre la création de dispositifs qui contournent ces mécanismes d'exploitation financière, tout en élargissant en même temps les capacités d'organisation. En même temps, cela donne de nouvelles pistes sur les relations entre enjeux économiques et engagement politique. D'une part, s'il est évident que ces processus d'organisation portent sur la résolution de besoins matériel, cette résolution devient un moyen pour l'organisation collective et en même temps un objet politique. La télévision ou la télé perdue peut être remplacée grâce au travail collectif qui permet de créer un fonds commun originalement conçu pour faire face aux situations très grave ou obsèques. La mise en place d'un circuit de crédit interne pour augmenter les revenus des vendeurs prend sens dans la mesure où cela permet non seulement d'améliorer les conditions de vie individuelles, mais également potentiellement de renforcer les dispositifs de construction collective, comme les fonds communs. Donc, les deux situations dont je viens de resituer nous permettent de tirer quelques réflexions sur les modalités d'engagement collectif qui, à mon avis, sont étroitement liées aux réflexions qui ont été présentées. Là, depuis tout le débat, j'ai beaucoup plus de choses à dire, mais je m'attire et vais me concentrer sur ce que j'avais déjà préparé. Mais je suis vraiment convaincue qu'il y a beaucoup de points en commun. Une première conclusion relative à l'intérêt dans l'approche ouverte à la multiplicité des pratiques, des espaces et relations à travers lesquels des modalités d'engagement et de politisation sont possibles, sans les réduire a priori à une notion prédéfinie sur qu'est-ce qui est ou pas une, la politique. Donc, ce qui veut dire d'ouvrir notre notion aussi de politique en soi. Donc, il y a, à mon avis, là, il y a une... la question, c'est pas ça, c'est politique ou pas, mais comment on politise une question, disons. Donc, une idée de politique en situation dont on parlait plus tard, tout à l'heure. Un deuxième point, une deuxième conclusion, concerne la question du collectif et son rapport à la dimension politique. Si l'on prend en compte l'approche mentionnée dans la synthèse, c'est-à-dire qu'on prend la politique comme des conditions de vivre ensemble et des résolutions d'un conflit d'intérêts à une société, on peut conclure que les caractères collectifs des pratiques dont je parle deviennent un élément central du processus d'organisation en tant que processus politique. Collectif n'est pas ici synonyme d'homogénéité, comme on a vu tout à l'heure aussi, d'un acteur, mais non plus de la construction d'un acteur collectif. Donc l'identité collective, à mon avis, ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Je ne sais pas si je synthétise, mais... Donc l'expérience de la CETEP est très intéressante dans ce sens, car la notion d'économie populaire, en tant que catégorie politique, prend comme point d'appui cette idée d'hétérogénéité de cette population, sans la nier, sans la réduire, disons, en faisant avec cette hétérogénéité. Donc l'économie populaire est justement une notion qui renforce les caractères productifs aussi bien dans l'essence économique, politique que sociale de cette population, qui est généralement définie par ce qui manque, sans emploi, sans travail, et pas formel, inégal, etc. Et la question qui se pose donc est celle des dispositifs dont on se donne pour résoudre collectivement les mécanismes de différenciation qui sortent de cette hétérogénéité ou que ça découle, je sais pas, et qui font nécessairement partie de tout processus d'organisation collective. Par exemple, dans le cas de l'organisation des vendeurs du train dont je parle, les relations entre les générations, entre nouveaux ou jeunes et anciennes et vieux, c'est clair que les comités, c'est les anciennes, de la directive, disons, de la coopérative, qui entraînent des mécanismes de classification et de hiérarchisation interne, comme nous l'avons vu. Les relations de genre restent encore plus difficiles à travailler, beaucoup plus complexes encore. Ce sont des choses qu'on ne compare pas, même. Une troisième conclusion qui est plus directement liée à la question de la politisation, oui, je suis en train de finir, des besoins matériels dont je parle. Comme j'ai déjà souligné, le travail de recherche que j'ai conduit depuis 2002 en Argentine m'ont permis d'observer que la reproduction de la vie des classes populaires est soutenue par des processus d'organisation collective qui sont à la base des formes d'expérimentation politique qui ont lieu à partir des dynamiques quotidiennes liées aux besoins matériels. Donc, c'est ces processus d'organisation collective qui soutiennent la vie, la reproduction de la vie. De façon directe ou indirecte, comme on a vu avec la maison du vendeur et du voisin aussi. Donc, quelques mots sur la dernière mention de besoins matériels qui explique un peu les guillemets que j'utilise. En revenant sur les situations décrites, il devient évident que ce que nous appelons besoins matériels est toujours quelque chose que l'on ne peut pas détacher d'autres besoins, si l'on peut dire besoins, que l'on qualifie d'immatériels, tels que les relations affectives, les émotions, les sentiments, les soins qui ont apparu tout le temps ici. Et dans ce sens, si l'on doit ouvrir la notion de politique, il est aussi important de faire la même chose avec celle d'économie, comme nous le propose Susana Naror, qui est une anthropologue et espagnole, et Nico Esnier, dans un travail de 2014. Il nous propose de partir de la notion de reproduction de la vie pour mettre au centre de notre analyse la continuité et le changement des systèmes collectifs pour soutenir la vie au sens large, c'est-à-dire à la fois dans sa dimension matérielle, alimentation, vêtements, logement, etc., comme par rapport au sens, aux valeurs, aux notions que nous construisons pour produire cette matérialité en tant que partie de celle-ci. Donc, cette dimension pas matérielle, c'est partie de la... Donc, c'est pour cela que je parle de reproduction de la vie, ou production et reproduction de la vie, à partir aussi d'une lecture qui s'inspire de réflexions des économies féministes auxquelles j'ai fait référence tout à l'heure, à partir de la notion, qui ont proposé la notion de durabilité de la vie, sostenibilité de la vie, je ne sais pas si c'est exactement durabilité, mais c'est le mot que j'ai trouvé. Donc, ces perspectives ont permis d'élargir la notion de travail d'économie pour inclure les pratiques de soins et faire référence à l'ensemble des processus d'interdépendance et des relations qui permettent la reproduction de la vie, c'est-à-dire qui met en question un modèle de sujet autosuffisance qui est à la base du système capitaliste pour insister sur l'importance analytique de la totalité des processus de relations d'interdépendance en fait, qui permettent la reproduction de la vie. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas ni dépendant ni indépendant, finalement, par personne. En général, la littérature en sciences sociales et aussi les bons sens militants, disons, opposent besoins matériels fondamentaux et objectifs de transformation sociale. Ce qui mon travail m'a amené à montrer, à affirmer, c'est la nécessité de repenser cette relation. Cela exige, à mon avis, de sortir d'une lecture téléologique qui suppose un regard évolutif, disons, selon laquelle les objectifs de transformation sociale, l'engagement vraiment politique, bon, il y a vraiment politique et pas vraiment politique, ne devient possible qu'une fois qu'on a résolu les besoins matériels. Ce que j'ai appris en faisant du terrain ou des travaux de recherche collaborative aussi avec les organisations de base en Argentine, c'est justement le contraire. Il s'agit de politiser la façon dont on résolut les besoins matériels. Et afin d'être capable de reproduire la vie, cela veut dire que cette solution est aussi assurée collectivement et entraîne un processus de politisation qui a lieu dans le quotidien. Plus encore, il s'agit des choses qui vont de pair. C'est-à-dire que la politique n'est pas détachée des enjeux économiques relatifs à la survie et aux besoins matériels. Et finalement, que l'engagement politique n'est pas quelque chose d'autre, d'extérieur, qui a place dans une autre emploi, dans un autre moment ou espace, mais plutôt une expérience qui découle du fait de faire ensemble, de construire collectivement. Donc, je n'ai pas du temps, je pense, mais juste pour finir, il me semble que c'est clair que pour comprendre ce processus dont je parle, dans un sens profond, il faut prendre en compte les contextes argentins de ces dernières décennies, mais également l'histoire locale, notamment la place du mouvement ouvrière dans notre pays, qui est en fait assez semblable, avec toutes ces différences, aux places du mouvement ouvrière ici en France. Donc, prendre compte il faut prendre en compte ces spécialités locales pour comprendre son déroulement et aussi les conclusions qu'on peut tirer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de points communs depuis toutes ces journées de discussion avec ce que je vois ici. J'ai beaucoup appris et je pense qu'on peut aussi faire une comparaison assez intéressante. J'avais pensé aussi à d'autres exemples dont je connais à peu près, comme les syndicats populaires de vendeurs ambulants à Barcelone, qui a été créé par des travailleurs migrants aussi dans des vendeurs de rue, et qui mettent en place aussi des processus assez semblables, qui ne sont pas liés à la survie dans les sens si stricts, mais qui en même temps entraînent des processus de demande des droits par rapport à la ville et aux conditions migrantes en même temps. Mais aussi, on peut penser, je ne sais pas, aux épiceries solidaires dont vous parlez, aux jardins dont vous avez parlé, dans le même sens. Donc, bon, c'est ça. Merci beaucoup.